Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu,
outils, expérimentation,
productivité,
interaction, innovation,
Jeff,
Guillaume,
Seb
et Seb.
Et c'est parti, nous sommes en ligne. Bonsoir pour ce numéro 89 de eTeachers et on est vraiment désolé pour ceux qui écouteraient en live et qui s'attendaient à ce qu'on soit à l'heure puisque nous sommes d'habitude à l'heure, mais ce soir petit souci technique, voilà, de ma faute en fait, et ce vient d'être réglé. Bonsoir à tous quand même, salut Seb.
Salut Guillaume, et on emmerde un peu les plugins ce soir.
Ouais, on emmerde un peu les plugins, c'est notre côté gilet jaune à nous anti-plugins, voilà, on n'est pas très content des plugins, mais ça y est, les plugins nous ont souri. Et voilà, on va commencer sans plus attendre, une petite émission ce soir en tête-à-tête, hein, puisque notre Américain a plus de difficultés cette année pour être avec nous, et notre Jeff habituel et national est surchargé de travail aussi, donc on s'est dit qu'on allait quand même faire cette émission. Voilà, ça va toi Seb sinon ?
Ça va, on va essayer de remplir le créneau que Jeff nous a laissé. Du coup, on va faire un petit retour rapide sur l'émission précédente, il n'y a pas grand chose à dire. On a pas mal d'actualités, quelques outils, un petit truc et astuce en passant, une petite innovation. On finira avec ce qu'on fait en ce moment et pour parler d'autres choses. Donc, on a nos rubriques habituelles, quand même.
Voilà,
même à deux. Et puis,
peut-être un petit peu plus courte, comme on n'est que deux et qu'on a du coup moins de choses à présenter. Mais ma foi, c'est bien de reprendre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission. Voilà, et ben, je te laisse parler du retour sur l'émission précédente.
Oh, c'est une toute petite chose, c'était un petit clin d'œil. Dans l'émission précédente, j'avais parlé d'un épisode et d'une chaîne YouTube qui s'appelle Primum Nocere. C'est une chaîne qui est, comment dirais-je, faite par un médecin de formation. Et il nous a fait un petit coucou sur Twitter, vu qu'on l'avait cité. C'est toujours assez sympathique. Et on peut passer directement, du coup, aux actualités. Est-ce que tu veux commencer ? Alors, je commence. On vous a parlé plusieurs fois dans l'émission du bien qu'on pensait des petits fascicules, ces petites productions PDF sous forme de fascicules PDF, notamment à l'initiative de David Cohen, qu'un de ces jours je vais rencontrer puisqu'il est sur Nice. Et bien voilà qu'ils ont eu l'excellente idée d'en faire une intégrale avec tous les petits fascicules de l'année 2018. Donc, je vous invite à aller retrouver cette belle intégrale. Ça pèse quand même au bout d'un moment, mine de rien. Petit fascicule, mais bon, petit, plus petit, ça fait quand même pas mal. Donc, comme à l'accoutumée, vous pourrez retrouver ça sur le site clastis.fr, le site de Christophe Gilger, qui a bien d'autres petites pépites à son actif. Donc, je vous invite à aller retrouver ça. Bon, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai loupé quelques-unes. Donc, du coup, ça va être l'occasion pour moi de m'y remettre tranquillement.
Ce sont donc des ressources numériques, c'est ça, hein ?
Alors, ressources numériques, c'est une introduction généralement à ce que l'on peut faire avec le numérique. C'est très varié dans les sujets abordés quand même. Ouais. Et qu'est-ce que j'avais bien aimé ? Il y en a beaucoup. Puis en plus, c'est joliment mis en image par celui qui est à l'origine de ça, qui est prof d'art plat, qui a un joli petit coup de crayon numérique. Donc, sur le fond et sur la forme, c'est quelque chose qui est vraiment à découvrir, je vous le conseille. C'est sur des thèmes très variés, mais quand même avec le numérique en ligne de mire.
D'accord. Eh bien, écoute, ma foi, c'est super intéressant d'avoir l'intégrale. Voilà. J'en profite quand même pour vous rappeler qu'on est sur le live éventuellement, si certains d'entre vous ont tenu pendant tout ce temps de retard. On checkera quand même un petit peu le chat Stan. Je vous rappelle que vous pouvez chatter directement dans la barre à côté de la vidéo. Voilà. Eh bien, je vais continuer avec une actualité, plutôt un appel à candidature, en fait, qui est pour le CLIC 2019. Donc, le CLIC, c'est le colloque qui traite particulièrement de la classe inversée. Vous savez, nous avions été partenaires l'année dernière, en tout cas, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus. Ce sont quand même des gens qu'on connaît un petit peu également. Et voilà, donc l'appel à communication est ouvert. Le colloque aura lieu en juin de cette même année 2019. Voilà, le CLIC 2019, nous mettrons le lien vers l'appel à candidature, l'appel à contribution dans les notes de l'émission.
Et ça me fait une transition toute trouvée, puisqu'un appel candidature a aussi été lancé pour Ludovia. Ludovia, l'université d'été en Ariège, consacrée bien sûr au numérique dans toutes ses facettes différentes et variées. Donc, si vous avez expérimenté des choses, que vous avez envie de partager dans des conditions, ma foi, fort agréables, ce que vous avez pu essayer, tenter, etc., eh bien, ils font leur appel à candidature eux aussi, et avec un peu de chance, vous croiserez des gens que vous avez croisés sur ce podcast ou ailleurs dans le monde merveilleux de l'Internet éducatif.
Voilà, nous avions été partenaires l'année dernière, on vous le rappelle, et voilà ce qu'on peut dire pour le moment.
Tout à fait.
Une dernière actu, Seb.
Ouais. Que je retrouve mon fil et je vous dis ça. Voici. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis d'autre ? Oui, le 27 mars. Le 27 mars, c'est dans moins d'une semaine. Est organisé à Nice Écritech, le dixième colloque du genre, qui est consacré à la citoyenneté numérique cette année. Alors d'habitude, c'est sur 2 jours. Là, je vois qu'ils ont regroupé tout ça le 27 mars, un mercredi. Donc, moi, je vais tranquillement y aller et j'en profiterai. Alors, soit pour rencontrer des gens que l'on a seulement vus sur le net, soit pour vous faire un petit retour là-dessus, ce sera bien agréable.
Super, merci. Voici pour les actualités. Les actualités, ça fait très journal des années 60. Nous enchaînons donc avec quelques outils. Eh bien, vas-y, je te laisse attaquer sur les outils.
Oh, c'est gentil. Alors, moi, c'est un outil, c'est carrément un site dont je vais vous parler. Ce site, c'est monécole.fr. Alors, cet outil, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment en priorité pour les enseignants de l'élémentaire. Pourquoi ? Monécole.fr, c'est un site qui est assez connu dans l'élémentaire parce que, son auteur a mis en place un système de rallye lecture qui a su trouver vraiment son public dans la facilité qu'il a de pouvoir mettre en place. Donc, vous avez toute une liste d'ouvrages qui est déjà disponible, etc. Vous voulez sélectionner. Alors, bien entendu, il y a une contrepartie financière à apporter à la chose, mais c'est un système clé en main. À partir du moment où vous avez les livres dans votre classe ou vous pensez acheter des livres pour faire un rallye lecture, lui vous fournit toute la partie logistique derrière, c'est-à-dire pouvoir répondre, pouvoir avoir des corrections automatiques, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Depuis, c'est un site qui s'enrichit beaucoup. Il y a quelques temps, ça doit faire même plus d'un an, on en avait parlé sur eTeachers, c'était Seb l'Américain qui en avait parlé pour nous présenter un système de parcours.
Donc, oui, je m'en rappelle.
Histoire de dire que il enrichissait la chose et il continue. Et par exemple, moi, cette année, dans ma classe, j'utilise une application qui s'appelle MathKero qui a pour objectif de faire travailler les élèves sur le calcul. C'est très joliment fait. Vraiment, c'est très joliment fait. Les élèves ont des petits héros sur lesquels ils vont pouvoir mettre différents pans de costumes selon les points qu'ils rapportent dans les ateliers de calcul mental. Bon, moi, les miens, c'était l'objectif en début d'année, c'était de pouvoir aller sur MathKero. Donc ça fait des petites ressources. Mais alors, il continue à en rajouter. Et il a mis en place un système de widgets, c'est-à-dire des petits gadgets que vous pouvez rajouter dans votre espace Mon École, vous pouvez vous inscrire. Alors, vous avez des tas de petites choses. Hein. Vous avez, par exemple, un calendrier, ça c'est très classique. Vous avez un système de petits musées auxquels vos élèves vont pouvoir accéder. Ça leur donnera une œuvre d'art à découvrir. Vous avez également un œil sur le monde, il a appelé ça. Ça permet de découvrir un endroit célèbre dans le monde. Vous avez pour les vidéos. Voilà. Si on veut, par exemple, partager quelque chose de YouTube, mais sans avoir tout le truc de YouTube autour, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, eh bien là, vous l'avez directement dans le site, c'est intégré, vous pouvez facilement avoir un système pour créer des QR codes, vous pouvez avoir un système autour d'une opération de vocabulaire, et il y en a pas mal qui sont en préparation. Franchement, ça fait envie quand on en voit certains. Il y en a certains sur les métiers d'élèves, sur de la musique, etc. C'est très, très varié. Moi, il y en a deux qui, pour moi, se détachent pas mal du lot et qui, à mon sens, ont pas mal facilité la vie des collègues. Alors, je parle de collègues qui, par exemple, n'ont pas eu envie ou pas l'occasion de mettre en place un ENT particulier d'un système ou d'un autre. Par exemple, vous avez un traitement de texte. Bon, un traitement de texte, vous allez me dire à quoi ça sert là-dessus. Eh bien, l'avantage, c'est que celui-ci, les élèves vont pouvoir y accéder avec leurs identifiants, taper leur texte et vous allez pouvoir les récupérer automatiquement. Hein, ils vous récupèrent tout ça, pas de clé, pas de mise en place d'un autre système. C'est automatique, c'est vous qui le. Avec quelques clics, c'est fait. Et il y en a un autre qui me plaît beaucoup, moi, c'est qu'il a mis un widget qu'il appelle Outils pour TBI. En fait, c'est un petit TBI rapidement fait, mais qui a les fonctions essentielles que l'on peut en attendre, à savoir dessiner, prendre une image, rajouter des choses dessus, etc. Mais ça peut vraiment, je dirais, c'est une super porte d'entrée pour des collègues qui n'ont pas forcément un instinct très geek, qui n'ont pas avoir envie de fouiller, d'essayer 15 applications, de se débrouiller avec trois trucs qui fonctionnent un petit peu pour faire un ensemble correct. Ça donne un ensemble très sécurisé, je trouve, très accessible. Alors, les fonctions, elles sont, c'est vraiment quelque chose de basique. Hein. N'allez pas commencer à imaginer que vous allez pouvoir faire toute une séquence préprogrammée avec ça. Mais franchement, j'aime beaucoup l'initiative. Et Laurine Walter, qui est à l'origine de tout ça, bon, ben, il ne s'arrête pas là. Moi, je vous en parle un petit peu en plus. Ça n'a pas grand-chose de numérique, mais il fait des jeux aussi autour des mathématiques, autour de la conjugaison. Bon, moi, j'en ai acheté quelques-uns cette année et ça fonctionne très bien sur des principes très simples. Donc, je pense que c'est un site qui, au fur et à mesure des années, s'enrichit et devient vraiment intéressant parce que là, on est en train d'avoir presque un écosystème numérique qui se forme autour de ça. Donc, à surveiller, mais très appréciable déjà.
Seb en avait parlé effectivement avec beaucoup de bien il y a un certain temps et ça a l'air d'être bien pensé pour des accès parents et des accès enseignants, des accès élèves. Est-ce que tout ça est bien conforme à la nouvelle réglementation sur les données personnelles des élèves? Tu as eu l'occasion de tester un peu tout ça?
Je ne sais pas, mais je pense qu'il me faudrait pour ça quelque chose qui m'aide à y voir plus clair dans la RGPD.
Écoute, vraiment, ça tombe très bien puisque c'était mon actualité et je voulais vous parler du petit fascicule, en tout cas de l'outil pour s'y retrouver dans les RGPD qui a été sorti.
On te perd un peu, Guillaume.
Pardon, est-ce que tu m'entends là?
Oui, là c'est bon, je te récupère.
Voilà, je vais vous parler de cet outil que Canopé a sorti et qui permet de s'y retrouver. Au-delà de la magnifique transition que nous avons fait tous les deux, est-ce que vraiment pour venir finir sur le site, est-ce que les enfants ont besoin de créer des comptes aussi ou ça marche par des codes? C'est le prof qui les inscrit?
Non, là, c'est vraiment. Alors moi, je sais pour l'avoir fait. Une fois que toi, en tant qu'enseignant, tu t'es inscrit, les codes. Tu vas générer des codes et tu vas leur donner. Enfin, les codes te sont donnés pour chacun de tes élèves. Voilà. Et ensuite, les élèves vont changer, vont mettre un code d'entrée et voilà, c'est tout. Ils n'ont pas besoin d'avoir plus que ça et c'est très bien comme ça.
Eh bien, c'est très bien comme ça, effectivement. Donc voilà, je vais enchaîner pour parler également de ce fascicule numérique qui a été créé par Canopé et qui est sorti, ma foi, vraiment récemment, je crois. Hein. Il faut savoir que cette nouvelle loi hein, sur la fameuse RGPD, la réglementation pour les données utilisées à caractère personnel du moins, a beaucoup d'implications dans le cadre scolaire, vu tous les outils numériques que l'on utilise aujourd'hui, et il n'est pas tout le temps évident de s'y retrouver. Donc, nous vous mettrons le lien vers le site du réseau Canopé qui renvoie vers une version téléchargeable de ce document avec une plaquette également un peu plus synthétique et puis aussi tout un système de foires aux questions à laquelle on accède directement sur le site qui sont plutôt bien réalisées et qui permettent rapidement d'avoir l'info notamment dans des grandes thématiques comme l'usage pédagogique des outils numériques, tout ce qui concerne la production et la publication des contenus des élèves, ça c'est souvent ce qui nous intéresse le plus quand nos élèves produisent, s'enregistrent, se filment, comment faire si on souhaite diffuser les productions pour les montrer hein, tout simplement aux parents, à la communauté éducative. Voilà, tout un tas de la sécurité des données, voilà, la relation avec les représentants légaux. Donc vous cliquez sur le sujet qui vous intéresse et en général les informations sont assez vite données. Voilà, c'est pas grand-chose mais vous irez voir, c'est Canopé qui a sorti ce petit site.
Oh, tu dis pas grand-chose, mais on en a vraiment, vraiment super besoin d'éclaircissement, de choses synthétiques de manière à aborder cette réglementation. Moi, à titre personnel, c'est encore un petit peu, comment dirais-je, nuageux.
Oui, tout à fait. Et c'est exactement pareil chez moi. Et je peux te dire, pour faire un paquet de formations qui traite avec le numérique, quand j'attaque les formations où j'évoque bien évidemment la loi, puisque c'est une obligation, on voit bien, et puis même en discutant de manière informelle avec les collègues, que pour eux aussi, pour l'instant, ils sont la plupart du temps malheureusement dans l'illégalité sur les données. Mais bon, c'est pas évident. Hein, et puis, ça va vite.
Voilà, puis bon, c'est un règlement assez conséquent et il faut pas se leurrer. Étant donné qu'on a tous plus ou moins utilisé le numérique et qu'on a essayé de faire des choses autour de ça, forcément, on peut pas être en accord avec une réglementation, qui arrive en cours de route.
Tout à fait. Et puis ça risquerait de casser un petit peu aussi les quelques initiatives des collègues qui se lancent, parce que ça peut vite être assez chronophage. Je pense surtout ce qui est droit à vidéo, ce genre de choses. Mais bon, en tout cas, voilà, vous avez le mérite. On a la possibilité de se renseigner grâce à ce petit outil. Voilà.
Merci bien, merci bien. Ben, en parlant de petit outil, moi, je vais passer à la rubrique trucs et astuces. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler? Eh bien, je vais vous parler de toutes ces petites choses. Je ne sais pas si tu dois le connaître, Learning Apps.
Oh oui.
Voilà, hein, voilà, Learning Apps. Alors, je ne suis pas un grand utilisateur de Learning Apps parce que j'avais pas la patience ni l'occasion de prendre plusieurs des blocs que des collègues avaient créés pour les mettre ensemble, etc. Voilà, j'étais pas un très grand fan de ça et j'ai pas de site perso pour récupérer ce qu'ils font dessus et le mettre dedans. Alors, ça m'a titillé pendant un moment et j'ai trouvé deux petites astuces, si vous voulez, pour utiliser ce qu'on peut trouver sur Learning Apps. Alors, il faut savoir que Learning Apps, chaque fait des petits jeux, des petits quiz, des petits mémos que des collègues vont concevoir, ils les mettent à disposition sur ce site, sur cette application. Moi, je l'ai sur iPad, par exemple. Et vous pouvez récupérer ça de façon encapsulée, embed, comme on dit. Donc, le problème, c'est que cette encapsulation, vous ne pouvez pas l'utiliser telle quelle. Il faut que ça soit compris dans une page Internet, une page en HTML. Alors, soit vous avez un blog et vous la mettez dessus, bon, ça fonctionne. Mais si vous n'avez pas de blog dédié à ça, ce que vous pouvez faire, c'est... Admettons que vous ayez Book Creator, par exemple, qui est une application qui, à la base, sert à faire des livres numériques. Eh bien, vous pouvez simplement faire un livre numérique avec ça. Je vous donne un exemple plus simple. Par exemple, dans mes activités de dictée, si je vois que pour un élève ou pour un groupe d'élèves, l'accord entre le sujet et le verbe pose problème, je vais aller sur Learning Apps, je vais récupérer les différentes références de capsules, hein, les différents codes, je vais les prendre et dans Book Creator, on a la possibilité, depuis peu, du moins à ma connaissance, de mettre du contenu encapsulé. Donc, du coup, vous allez prendre une page, vous allez mettre votre contenu dedans et vous pouvez faire plusieurs pages comme ça et vous pouvez avoir carrément un petit livre de remédiation. Il vous reste à le partager et vous avez une ressource de remédiation faite qui ne vous a pas pris énormément de temps, mais qui est disponible. Alors, les élèves ne peuvent pas garder leur score, tout ça, on est sur une ressource vraiment d'appoint. Et c'est pas non plus voilà, c'est un truc astuce, c'est pas non plus une révélation. Bah, vous n'avez pas, pardon, excuse-moi, vas-y.
Non, je disais que c'est pas une révélation comme tu dis, mais c'est quand même super pratique en fait, parce que quand comme moi vous utilisez énormément de learning apps, c'est toujours compliqué de garder en fait ces ressources, de les trier. Voilà, donc moi j'ai des pages complètes de liens, donc soit les gamins cliquent sur les liens mais c'est compliqué, soit sinon je passe beaucoup par des QR codes que j'ai imprimés, mais bon voilà. Je trouve que le pouvoir les mettre dans un livre numérique, c'est vraiment pas mal, ça permet de thématiser les ressources, c'est vraiment sympa, et puis il y a un rendu qui est sympa et on peut le partager facilement quoi.
Voilà. Alors, le seul petit bémol que j'ai trouvé avec ça, c'est que sur tablette, certains learning apps fonctionnent un peu moins bien de cette manière-là. Mmh. Alors, on peut revenir à la solution précédente que j'avais trouvée. En fait, c'est un petit peu tout simple. Vous pouvez passer sur, vous faire une page entière sur Google Pages, hein, qui est un service de Google là-dessus. Là, pas un souci particulier de données à mon sens, parce que il n'y a pas d'identité de demander à celui qui va faire ça. C'est le même principe, c'est tout simple. J'en ai fait, ça demande très peu de temps. Vous avez votre compte Google quelque part. Bon, vous créez une nouvelle page dans Google Pages. Vous mettez vos capsules dedans. Il vous donne un lien vers la page à la fin et vous avez de quoi. Vous avez en un QR code, vous avez le récapitulatif de la série d'exercices qui est possible. Voilà, c'est une autre façon de faire si vous n'avez pas ni de compte Book Creator. Je précise d'ailleurs qu'ils font des comptes enseignants avec 40 livres gratuits à pouvoir partager avec vos élèves. Alors, ils ne sont pas modifiables par eux, mais vous pouvez les partager. Donc, ça peut être pratique. Maintenant, si vous ne l'avez pas ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez aussi passer par Google Pages. C'est une autre possibilité. Et voilà.
C'est vraiment pas mal et j'insiste sur ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas très compliqué, c'est-à-dire pour les moins expérimentés, ce dont on parle là, l'incrustation, le code embed, là, embarqué, je sais pas comment on dit en français, c'est vraiment pas compliqué. Moi, c'est quelque chose que je monte systématiquement en formation et que les collègues apprécient pour cette volonté justement d'avoir tout au même endroit, notamment dans les ENT, quand dans les cahiers de texte, quand on a envie de mettre une ressource dans le travail à faire qui sont embarqués dans le cahier de texte et qui ne renvoient pas vers une page externe. Et c'est facile, le fameux code qu'il faut copier-coller, vous comprendrez ça voilà. Si vous le faites, il est compliqué effectivement ce code, mais il ne s'agit pas de le comprendre, ce n'est pas ce qu'on demande, il s'agit de le copier et de le coller à un autre emplacement afin d'embarquer la ressource. Donc c'est vraiment très simple et aujourd'hui, il y a énormément de ressources. Moi, je me sers un peu de ce que tu présentes là, Seb, sur Book Creator pour faire carrément des leçons de A à Z quasi avec des ressources embarquées. Alors, bon, en anglais, je vais commencer par mettre une vidéo qui va intéresser les élèves, dans laquelle ils vont trouver du vocabulaire. Après, cette vidéo va être travaillée grâce à une activité Learning Apps. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, en gros, c'est vraiment récupérer plein d'outils à droite à gauche et tous les récupérer les mettre dans un livre numérique dynamique, quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très bien.
Bon, pour ceux qui, je vais parler d'un truc que les moins de 20 ans ne connaissent pas. À une grande époque, dans l'éducation nationale, on faisait une grosse formation sur Didapage. Si par hasard la création de livres numériques par Didapage vous a dégoûté à jamais des livres numériques, essayez vraiment Book Creator, qui est un truc que mes élèves de CE2 apprennent à utiliser en une heure de temps, tellement c'est facile et mettre des codes, des coms comme cela, ils pourraient le faire aussi. Sincèrement, c'est copier. Le lien, quand vous allez dans Learning Apps, ils vous le proposent de façon native. Donc, il n'y a aucune difficulté. Et on parle de Learning Apps. Je n'ai pas essayé avec d'autres sites, mais il y en a d'autres comme H5P qui font aussi des choses de ce genre-là. Bon, c'est un peu plus lourd H5P, j'imagine. Mais pourquoi pas, à essayer.
En tout cas, voilà, tester. On avait déjà parlé ici de Book Creator pour son, sa fonction de base. On en a parlé plusieurs fois. C'est maintenant quelque chose qui est très, très, très utilisé. Voilà, mais souvent, il est très, très utilisé et à juste titre comme outil de production pour les élèves, mais par les élèves. Hein, c'est-à-dire que c'est bien eux qui créent leur histoire, qui racontent, parce qu'on peut associer voix, texte, image, comme vous le savez. Voilà, l'utiliser comme ressource prof, comme un outil voilà, de production de ressources, c'est aussi une très bonne utilisation et ça ne demande finalement pas tant de temps que ça. Voilà.
Non, non, non. En fait, je pense que c'est un bon croisement de ce que le numérique et le partage de ressources entre enseignants peut donner. Quoi. C'est, genre, ah, tiens, tu as fait un truc qui est super, je te le récupère, je le mets rapidement, mais voilà, tac.
Et d'un point de vue technique, vite fait, pour ceux qui auraient connu les premières versions de Book Creator qui n'existaient que sur des applications, maintenant, ils l'ont passé en full web, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer une application, vous avez juste besoin, par contre, du navigateur Chrome, ça ne marche que par Chrome.
Tout à fait.
Sur les tablettes aussi, mais bon, c'est quand même plus facile à installer Chrome et puis il est souvent sur les tablettes. Plutôt que de faire descendre une application sur chaque tablette. Et voilà, et ça marche dans les ordinateurs et ça marche de partout. Voilà.
Exactement.
Merci beaucoup. Je vais enchaîner à mon tour sur un tout petit truc, parce que c'est quelque chose qu'on connaît par cœur, mais finalement, c'est pas mal aussi de se tenir au courant de l'actualité dans ces outils-là. C'est un autre site qui permet de récupérer des vidéos YouTube. Bon, il en existe, comme vous le savez, énormément, énormément. Le seul souci, c'est que souvent, ces sites existent, ferment, réouvrent, voilà, et sont souvent gavés de pubs, c'est-à-dire que quand vous récupérez le lien pour télécharger la vidéo, vous avez à côté 5, 6, 7, 8, 10 images vous disant « télécharger ici », alors qu'en fait, ça vous renvoie vers bien sûr d'autres pages et vers de la publicité. Et c'est vrai que moi, je m'en suis aperçu quand je suis en formation et que je présente ce genre d'outils, parce que des fois, on a besoin de présenter ça, non pas pour pirater, mais pour garantir l'utilisation de la ressource en classe quand le réseau pédagogique ne permet pas d'être sur YouTube. Je vous rappelle que le piratage est interdit par la loi. Il faut toujours expliquer aux gens ce qu'on leur dit bêtement. Ben, voilà. Vous savez que ces sites fonctionnent tous de la même manière, c'est-à-dire que vous récupérez l'adresse de la vidéo en allant sur YouTube, par exemple, et vous allez sur le site de téléchargement, vous copiez l'adresse précédemment collée et on vous dit ensuite un lien, ça vous génère un lien qui vous dit télécharger la vidéo. Sauf que sur les sites un peu, on va dire, sales ou gavés de publicité, des liens qui vous disent de télécharger la vidéo, il y en a donc 10, comme je viens de le dire, et les collègues un peu néophytes ne savent pas forcément tout de suite distinguer les faux liens de téléchargement qui renvoient vers de la pub de ceux qui sont finalement les normaux, qui sont toujours les plus petits, les moins voyants. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai découvert un site, enfin grâce à une veille, hein, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, qui est vraiment très très bien, qui est très propre justement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pollution visuelle. Vous collez l'adresse de la vidéo que vous avez copiée et il vous dit derrière, téléchargez la vidéo, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a rien d'autre, il n'y a vraiment pas de pub. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer ces sites, c'est toujours pareil, hein, des sites qui font ça gratuitement, c'est toujours un peu bizarre. Et il s'appelle Vidéo Cyborg. Voilà, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Il n'y a rien de plus simple. Vous récupérez la vidéo, vous la collez. C'est marqué en gros. Il y a un cadre. Alors, en anglais, c'est copy your URL, qui veut dire donc votre adresse email, votre adresse internet. Et un gros bouton download, téléchargement en anglais, sur lequel vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il n'y en a qu'un seul. Voilà, ça marche comme d'habitude pour YouTube, mais également pour quelques autres sites de streaming. Non. Pas tous, mais quelques-uns. Voilà, Vidéo Cyborg, et ça fonctionne.
Bon, bah écoute, merci pour ce petit tuyau bien pratique, mais c'est vrai que le problème de ce genre de site, c'est vraiment la durée de vie, qui n'est jamais très très étendue.
Malheureusement, non. Bah écoute, je vais enchaîner alors.
Mais bien
sûr. Dans notre partie innovation, expérimentation. Alors, c'est pas une innovation, une expérimentation de notre part. Hein. Là, pour le coup, c'est une innovation, une expérimentation de la part de la multinationale, du gros poisson Adobe, hein, Adobe en anglais, hein, que tous les francophones disent Adobe. Donc, bien sûr, qui est à l'origine, vous le savez, de ce fameux plugin Flash qui est maintenant obsolète, mais en tout cas, de tout un tas de solutions liées à l'image, à la vidéo. On entend parler de Absolument tout le temps. On a parlé ici d'ailleurs de Spark, Adobe Spark, qui est l'utilitaire qui permet de faire aussi des vidéos très rapides avec son, image et texte, assez utile pour les élèves. Je vous renvoie à un précédent podcast où on avait détaillé son utilisation. Ils viennent de lancer un truc qui s'appelle Adobe Education Exchange, donc qui, comme son nom l'indique en anglais, une sorte de plateforme d'échange pour l'éducation. Et leur idée, en fait, c'est de mutualiser des ressources gratuitement et librement. C'est-à-dire que pour l'instant, dans leur idée, c'est vraiment un endroit, une énorme plateforme. Une communauté en fait de professeurs, d'éducateurs qui vont partager, comme disent les Américains, your creativity, donc tout ce côté créatif de lesson plan qui ont pu être utilisés dans les cours. Alors comme c'est américain et que pour l'instant c'est ouvert surtout, alors pas pour des Américains, mais que c'est des Américains en premier qui ont donné les choses, les ressources sont pour beaucoup, 80% en langue anglaise. Alors, c'est vrai que moi, ça m'intéresse tant que prof d'anglais, mais vraiment, il y a un appel à ce que tous les gens de la planète proposent et des choses, et c'est plutôt pas mal. Alors, je ne suis pas allé plus loin pour savoir s'il fallait que les suggestions des utilisateurs, enfin les submissions en anglais, ce que les utilisateurs vont proposer à la plateforme, est-ce qu'elles doivent respecter des critères d'esthétique, design, je ne sais pas, ou au contraire de contenu pédagogique, ça j'y crois moins parce que c'est quand même assez subjectif et je vois pas vraiment comme Adobe pourrait se positionner. Est-ce que ça doit respecter un ordre, vraiment un lesson plan très précis? Je ne crois pas non plus. En tout cas, ce qu'on trouve en quelques clics, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment de tout, il y a à boire et à manger, mais il y a bien sûr un moteur de recherche qui permet de filtrer les résultats. Et c'est pas mal. En tout cas, ce que j'ai trouvé un peu surprenant, et de toute façon, on va aussi avoir des contre-voix qui vont dire que c'est flippant de la même manière, c'est qu'une boîte comme Adobe se lance un peu dans un truc comme ça. Alors oui, vous allez me dire demain, si Google fait pareil, c'est déjà un peu le cas. C'est-à-dire que même pour ça, on va tout passer par ces gros monstres, c'est pas faux. Alors oui, quand vous cliquez sur une lesson, là, quelque chose qui est proposé, on vous dit tout de suite que ça a été produit avec un outil en général utilisé par Adobe. Donc j'imagine bien que c'est essentiellement d'ailleurs Spark, Adobe Spark. Donc j'imagine que pour proposer des choses, il doit falloir aussi avoir produit des contenus avec ce genre d'outils.
D'ailleurs, si par hasard, tu es comme nous, un habitué de la production, tu reconnais les polices, la présentation, tout ça, tu sens le spark derrière. Quand
même. De toute façon, tous ces outils qui fonctionnent très bien, qui donnent des rendez-vous, je suis épuisé, qui donnent des rendus plutôt sympas si rapidement, c'est parce que forcément ils sont là aussi encapsulés dans des modèles très connus. Donc, il y a de tout. Pour l'instant, il y a des cours, ça va de tout, vraiment de tous les niveaux. C'est beaucoup sur des cours pour adultes quand même souvent. Il y a même un truc qui s'appelle Adobe for Teachers, donc je ne suis pas spécialement allé voir. En tout cas, c'est le début. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être intéressant de découvrir. Le projet est là. Voilà.
Surtout qu'on en a parlé plusieurs fois. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'applications de chez Adobe, notamment sur iPad, qui sont vraiment pratiques. Tu l'as dit, ça fait un rendu, ça donne un rendu assez classieux, assez très rapidement, avec peu d'efforts.
Il y a un truc qui est très rigolo chez les Américains, en fait, et puis en tout cas chez les anglophones en général, c'est qu'ils basent beaucoup leurs cours sur le rendu, justement, sur l'aspect design, graphique, des ressources qui sont proposées. Là où nous, on a encore toute une frange de collègues qui travaillent avec Publisher et WordArt, là, avec ces formes magnifiques. Oui, j'ai pas comme mentor, d'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai vu pas mal de cours, de très, très beaux cours en Angleterre, parce que les gens passaient beaucoup de temps sur la présentation, avec limite des fois des sortes d'introduction à des cours. Mais du coup, je me dis qu'ils passent vraiment beaucoup de temps à faire ça, ou en tout cas un certain temps. pour un contenu pédagogique qui parfois n'est pas top, en fait. Donc, c'est un peu le côté…
Voilà, le fond et la forme, l'éternel débat.
L'éternel débat. Mais je reconnais à l'inverse qu'il y a un paquet d'activités chez nos collègues qui seraient parfois un peu plus mises en valeur parce que justement, il y a un fond qui est terrible, terrible, terrible dans le bon sens du terme, hein, qui est vraiment terrible in English, quoi. C'est chouette. Et qui finalement manque un peu de… Voilà, d'aspect de papier glace et de paillettes, j'exagère un peu, mais voilà, qui donnerait vraiment un coup de boost au truc, quoi. Voilà. Même des fois, ça tient à la mise en page de l'évaluation, hein. On le voit bien, voilà, le fameux WordArt, ça fait pas rêver.
Non, mais là, c'est voilà. Fini, là. Tu peux plus faire WordArt en 2010. Enfin,
il y en a encore qui le font.
C'est pas possible.
Alors, des copies en comics sans MS, des trucs avec que du comics sans MS de partout.
Non, on peut pas. Non. Plus à notre époque. Faut arrêter. Allez.
Bon, voilà. En tout cas, vous irez voir Adobe Education Exchange et ça peut valoir le coup d'y jeter un œil. Voilà.
Ok. Ben écoute, on va passer à ce que l'on fait en ce moment. Et alors, c'est un événement, un exploit. Non, je vais pas exagérer non plus. J'ai enfin fini un de mes MOOC. Ah, les MOOC, c'est un peu comme les résolutions de nouvel an pour certains. J'en vois toujours qui m'intéressent. C'est toujours merveilleux. Et puis, il faut tenir la distance. Alors là, en plus, ça me permet de faire un petit clin d'œil à nos copains de Nipédu parce qu'ils y ont participé, ils ont relayé la chose et du coup, ils m'ont donné envie. C'est le MOOC qui s'appelait Leaders of Learning. Un MOOC qui, à la base, a été fait par Harvard X, la branche MOOC de l'université bien connue, et qui a été relayé sur FUN. Alors, ça me faisait beaucoup rire, hein, pour la petite anecdote, c'est que quand je prenais des notes, ça faisait du LOL FUN. Voilà. Donc, bon, ça, c'est moi. Et donc, je viens de le terminer. Et comment vous dire, c'était… alors, ce n'est pas une révélation, ça ne va pas parler de… comment être le meilleur enseignant, etc. Il y a beaucoup un concept américain derrière, quand même, parce que ça, on a pas mal d'acteurs du terrain qui sont américains derrière, qui parfois ont une parole peut-être un peu dure sur l'école publique. Alors, ils ne parlent pas de l'école publique française, moi, je me remets toujours ça en tête. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On va parler de situations d'apprentissage, on va parler de modèles d'apprentissage, un petit cadran, ces quatre situations-là qu'ils vont décliner sur la situation physique, sur comment on en produit pour ça, qu'est-ce que ça demande aux enseignants, etc. Et ça a fini par un petit projet qui était très sympa. C'est comment est-ce que maintenant que vous avez cet éclairage-là, cette grille de lecture, parce que c'est une grille de lecture qu'ils vous donnent, vous verriez un établissement idéal à votre sens, etc. Et je le dis encore, c'est vraiment quelque chose qui peut enrichir votre regard sur les pratiques d'apprentissage. Hein, que ce soit, et le regard est surtout porté sur l'avenir. Voilà, on ne fait pas un truc en disant ce qu'on se fait maintenant, c'est une catastrophe, l'école traditionnelle, c'est une catastrophe. Et non, c'est une situation, il y en a d'autres qui existent. Et ça m'a beaucoup amusé de voir dans quoi on pouvait classer les différentes situations d'apprentissage, soit à la classique, quand on est tous en rang devant un tableau, soit quand on fait partie d'un club, quel qu'en soit l'objectif, quand on fait une formation sur le net, tout seul devant son écran. Donc, c'est un joli détail. Il y a beaucoup de ressources à lire, à voir. Les seuls petits défauts que j'y ai trouvés, c'est que c'était un peu répétitif parce que du coup, ils vous présentent ces quatre points de vue, donc on va les voir une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, c'était le truc. Et puis, c'est assez paradoxal, mais c'est peut-être moi, par exemple, les vidéos ne m'ont pas apporté énormément de choses. J'ai préféré, les vidéos sont en anglais, et j'ai préféré lire la transcription qui était derrière. Passer ces petits détails qui sont très personnels.
C'est intéressant ça parce qu'on est dans un monde où on nous demande de faire de la capsule parce que c'est la mode, clairement, on va pas se mentir. Mmh. Et en fait, je me suis fait la même réaction que toi, la même réflexion que toi récemment en me disant qu'il y avait une capsule sur deux que je voyais qui avait aucune pertinence à être en vidéo en fait.
Voilà, tu sais, pour dire la non-pertinence, là par exemple, c'est que c'était… parfois, c'était un simple discours en face caméra, assez rêche, sans, voilà. Sans que la personne qui soit là en face fasse des intonations particulières et tout.
Voilà.
C'était très intéressant ce qu'il disait, mais du coup, pour moi, c'était beaucoup plus intéressant de le lire.
Je veux dire, c'est pareil sur les capsules de classe inversée, les collègues qui... Voilà. Alors après, j'entends que pour certains apprenants, pour parler juste de ça deux minutes, ont peut-être une plus grande facilité à mémoriser des contenus quand ils sont lus, entendus par quelqu'un d'autre que par lus par la personne elle-même. Mm-hmm. Mais en tout cas, quand on s'adresse à des gens qui ont un certain niveau... voilà, de maîtrise, un niveau universitaire de connaissances et qui sont des lecteurs, parce que c'est bien de ça dont on parle, je vois pas l'intérêt de faire de capsules si ce n'est pour dire voilà, voilà. Ça, c'est un truc, ça me fait penser des fois aux vœux, tu vois, un truc tout bête, hein. Aujourd'hui, on reçoit tout le temps les vœux de présidents des universités, de tout le monde, là, à l'époque des vœux, bien évidemment, et on reçoit systématiquement maintenant des vidéos. En fait, je viens de dire, ouais, quelle est la différence à part un courrier, une lettre bien écrite finalement. Pour moi, la vidéo a de sens que si l'image apporte quelque chose, en fait. Hein.
C'est bien ça. Après, tu l'as dit, ça correspond parfois à des appétits, à des habitudes différentes. Là, pour le coup, vous avez les deux. Bon, je pense que ça s'adresse à des gens plus qui vont faire comme moi, qui vont lire les... Mmh, je me faisais la réflexion, ce n'était pas le premier MOOC que je finissais sur Fun. Et le précédent, par contre, j'avais apprécié de regarder les vidéos, mais elles étaient directement en français. Je ne sais pas si ça a joué. En tout cas, là, bon, au-delà de ce petit détail, franchement, c'est quelque chose qui est intéressant. Et même s'il est très tourné vers l'avenir sur comment vous voyez la situation, comment est-ce que vous voyez les évolutions futures, parce que voilà, est-ce qu'on pourra continuer toujours à enseigner comme ça, est-ce qu'on peut passer à côté de... Et vous avez pas mal d'exemples. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup d'exemples tirés de par le monde. Alors beaucoup américains, il faut pas se leurrer, et c'est logique parce que par exemple, vous avez quatre acteurs du terrain qui vont revenir plusieurs fois avec leur vision de la chose, qui vont vous exposer ce qu'ils pensent. Mais du coup, c'est pas mal aussi parce que il n'y a pas une vérité qui en ressort, à mon sens. Voilà, entre quelqu'un qui gère une école un peu particulière et quelqu'un qui fait une participation très active sur Wikipédia, ils vont avoir un temps de parole assez conséquent tous les deux, mais ils n'auront pas la même approche. De la chose. Donc, vraiment intéressant et je pense qu'il sera renouvelé sur Fun et franchement, je le conseille.
Eh bien, moi aussi, j'essaierai de me le mettre dans les MOOC à suivre, que je ne suivrai malheureusement pas si je veux être réaliste, mais en tout cas, il faut que je m'y mette et que je trouve du temps parce que ça, c'est vraiment intéressant tous ces contenus. Voilà.
Ben oui, parce que toi, tu finis des choses, mais pas forcément des MOOC.
Exactement. Moi, je vais donc vous parler de ce que je finis et on est vraiment les rois des transitions ce soir. Voilà, j'en ai jamais trop parlé. C'était plus pour parler ce que l'on fait en ce moment. J'en ai jamais trop parlé ici un petit peu pour ceux qui savaient, mais après tout, j'ai rien à cacher. Ça fait maintenant 3 ans que j'écris des manuels scolaires pour un éditeur, des manuels donc d'anglais. Et voilà, c'est un travail de titan qui me prend beaucoup de temps en plus de mes heures d'enseignement, bien sûr, et qui n'ont rien à voir avec ma mission de service public, puisque c'est dans le cadre privé que je fais ça, bien sûr. Et en fait, ce que je voulais dire, c'était que c'est quand même assez bizarre ce côté d'auteur pour des manuels scolaires, parce que finalement, on se retrouve entre la volonté de proposer des choses auxquelles on croit pédagogiquement et qui se veulent en tout cas un tantinet novatrice, et à l'inverse...
On t'a un peu perdu là, Guillaume, si tu peux reprendre la phrase.
Pardon, je disais, on est pris, tu m'entends là, c'est revenu ?
Oui, là, je t'entends, il n'y a pas de souci.
Voilà, on est pris entre la volonté de faire des choses un peu novatrices et puis, un côté éditorial qui, lui, on va dire ce qu'il faut, quoi. Ça reste quand même un peu du business et qui préfère par moment quand même reproduire des choses qui ont fait leur preuve. On ne va pas dire le contraire, mais voilà, pris entre guillemets entre sa croyance pédagogique et puis, et puis le côté éditorial. En tout cas, ça donne un travail de réflexion qui est encore au-delà de celui de préparer des cours, parce que en fait, c'est un peu préparer des cours pour une année complète en une année avant, avec tout ce qui concerne les droits, la réflexion sur les images, sur la vidéo, sur tout un tas de choses. Et j'invite tous les gens qui se sentent intéressés par ce genre de choses à proposer, à contacter les éditeurs, parce qu'en fait, ils cherchent, hein, faut pas croire. Mais voilà, c'est tellement de boulot qu'il y en a beaucoup qui préfèrent ne pas le faire aussi. Mais sachez que même le plus mauvais des manuels, et je dis ça en toute connaissance de cause, pas parce que le mien est mauvais, mais en tout cas parce que je les ai beaucoup vus, les autres, et il m'est arrivé parfois de dire « Ah, mais c'est pas possible, comment ça se fait ?» Il y en a quand même certains, même mauvais, qui sont quand même finalement pensés et c'est jamais fait à la va-vite, quoi. Donc, voilà. Et je trouve parfois à une époque où on voit beaucoup de jeunes collègues qui se lancent un peu comme ça en disant « Non, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de manuels scolaires. » En fait, c'est pas mal quand même parce que même les plus mauvais cadrent et donnent quand même des progressions. Et voilà, même si les documents ne sont pas forcément tout le temps les plus… C'est intéressant pour X ou Y raison. Il y a quand même de la réflexion derrière, là où parfois, quand on part de rien du tout pour tout créer et qu'on connaît un peu tout feu, tout flamme, on peut aussi vite se perdre et se planter. Voilà, donc ma foi, bon, je peux dire le nom, il s'appelle I Bet You Can. C'est un manuel de collège en anglais.
Tu vas rigoler, on dirait une coupure qui est faite exprès, mais c'est pile au moment où tu as donné le nom qu'on t'a perdu.
Eh ben voilà, c'est vraiment rigolo. Il s'appelle I Bet You Can. J'ai presque plus de connexion, donc j'en dirai pas plus longtemps. Voilà, mais en tout cas, c'est intéressant.
Je vais aller dans ton sens parce que on pourrait se dire qu'à notre époque, il suffit de taper dans un moteur de recherche ce que l'on cherche, ce que l'on veut. Mais par contre, dans un manuel, ce qu'on va retrouver, c'est une vision d'ensemble, forcément, avec une intention derrière, avec une vision qui va dépasser la simple séance. Pour s'inscrire vraiment dans la continuité, pour un truc qui est un peu réfléchi, c'est logique. Donc ça, c'est pas plus mal de démarrer avec un manuel au début, je pense, quoi qu'il arrive.
Je crois, et je crois que voilà, même si c'est pas terrible sur le contenu, ça a quand même le mérite d'être réfléchi et un peu cadré, quoi. Voilà, tout simplement.
De toute façon, il vaut toujours mieux bricoler sur une base qui est cadrée et faire des trucs. Là, tu peux t'amuser à innover. Pour un collègue qui débute, moi, c'est ce que je lui dirais. Je dis, ben, prends un truc qui est même un peu moisi, un peu, pas moisi, oui. C'est méchant, mais qui est un peu fatigant parce que c'est répétitif, etc. Et là, un moment ou un autre, quand t'en as marre, ben, tu fais une séance qui explose, tu fais une séance qui va aller chercher ailleurs. Et là, tu peux t'amuser.
Exactement. Exactement. Voilà pour la petite info. Allez, on va terminer avec… notre rubrique
parler
d'autre chose, vas-y.
Alors, je commence. J'ai succombé. Alors, il y a quelques numéros, je vous avais parlé d'un jeu que je faisais qui s'appelait Subnautica. Je n'ai toujours pas terminé. Et entre-temps, bon, j'ai connu pas mal d'expériences vidéoludiques. Et là, dernièrement, je suis tombé sur un petit bijou qui s'appelle Hollow Knight. Alors, c'est un jeu qui, à la base, a été financé sur Kickstarter, sur un financement participatif. C'est ce qu'on appelle un Metroidvania, pour ceux qui s'y repèrent et pour ceux qui ne s'y repèrent pas. En gros, imaginez un petit peu un Super Mario Bros. Bon, c'est pas difficile, mais cette fois-ci, qui est perdu dans un labyrinthe et où, pour accéder à certains niveaux, eh bien, il faut avoir des pouvoirs que vous n'avez pas dès le début. Ajouter à ça une patte graphique qui est, à la base, on contrôle une espèce de petit insecte avec une épée, ça n'a pas l'air fantastique, et c'est très très poétique, je trouve, dans le déroulement. Là, j'approche des 45 heures de jeu, donc je l'ai fait aux trois quarts. Je dois pouvoir finir le jeu si je veux. C'est très sympa, c'est très beau. Franchement, moi qui sort d'une longue expérience de jeu sur vieille console, avec de l'émulation, je trouve ça vraiment très très beau. C'est un jeu qui mise pas uniquement sur le graphisme, mais quand même. Donc l'histoire est un peu nébuleuse parce que bon, vous savez pas pourquoi vraiment vous êtes là, ce que vous racontez n'est pas là. Je comprends un peu mieux, mais je sens qu'il y a encore des trucs derrière. C'est vraiment voilà, pour ceux qui ont connu Metroid, pour ceux qui ont connu Castlevania, l'épisode qui était sorti sur PS1 avec Alucard, c'est quelque chose qui s'en rapproche avec une patte graphique actuelle, quoi.
Et c'est sur quelle plateforme?
Alors, moi, je joue sur PC avec Steam. Et je crois, alors, je ne sais pas sur quoi d'autre ça peut être joué. Ça, c'est une bonne question. Je crois qu'il est sur Switch, parce qu'ils passent quasiment tout sur Switch maintenant. Mais sur PC, moi, je joue exclusivement. Donc,
Très bien. Voilà. Alors, c'est rigolo que tu parles de ça, parce que j'avais prévu de parler d'un jeu vidéo aussi. Je ne l'ai pas mis dans notre... document, mais d'un jeu sur Switch, justement, et qui, dans ton descriptif, sur le coup, je me suis dit, mais on doit parler du même, mais en fait, non, quand même pas. C'est un jeu, bon, pour les dingues de Switch, qui est sorti il y a quelques temps, quand même. Moi, j'ai moins le temps de jouer qu'avant, mais j'y joue encore un peu, qui s'appelle Dead Cells.
Oh mon Dieu, oui.
Voilà, et en fait, bah, j'ai bien kiffé ce jeu, parce que, voilà, quand j'ai demandé à des gens dans mon entourage qui jouent beaucoup plus que moi, moi je suis un ancien joueur, je reconnais avoir beaucoup joué à l'époque où il n'y avait pas forcément de jeux en réseau, mais voilà, et là je me suis réacheté cette petite Switch il n'y a pas très très longtemps, et je leur ai dit, bah, voilà, j'aime bien Zelda, j'aime bien tout ça, mais je n'ai pas le temps de m'investir dedans, moi il faut des jeux où je joue vite et que je me fasse plaisir rapidement. Et voilà, donc le principe de ce jeu en fait, c'est que... c'est un peu un jeu comme dans les années 90, c'est-à-dire que vous mourrez, vous reprenez du début, quoi.
Roguelike pour les.
Voilà, exactement. Et en fait, ce qui est très sympa, c'est que finalement, en fait, c'est un peu fait exprès, puisque là aussi, vous reprenez avec de l'expérience, avec un peu plus de dextérité dans les doigts, et puis quand même tout un système d'options qui permet certes de revenir, vous revenez certes au début, mais quand même avec des pouvoirs en plus, plus de vie, plus d'argent qui vous permet d'acheter plus de choses, et donc d'aller à chaque fois que vous reprenez au début, quand même à chaque fois un peu plus loin. Et donc, vous mettez ces fameuses mission de se dire je vais aller encore plus loin. Voilà, c'est une super jouabilité, c'est très agréable. Il y a un côté Castlevania qui m'a vraiment plu, en fait, hein, voilà, dans un monde un peu glauque où on doit tuer des espèces de formes, on sait pas trop, enfin, on sait des choses, mais c'est assez, c'est pas dans une prison en fait exactement. Et c'est vraiment fun, et surtout, ben, je crois que c'est Cocorico, sans tromper, je crois que c'est développé par un studio français, et c'est vraiment sympa, un graphisme très inspiré là aussi des jeux des années 90, avec une pixelisation volontaire, on va dire, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très sympa. Tu y as joué, Seb ?
Non, mais j'en ai, si tu veux, à un moment, je voulais un jeu comme ça, parce que voilà, je saturais un peu d'autres trucs, et ben, ça faisait partie des choix... J'ai dû tâtonner, j'ai dû me dire alors celui-là ou alors le Hollow Knight ou Dead Cell. Hollow Knight ou Dead Cell. Je crois que c'est parce que j'en avais un peu marre justement des pixels que je suis parti sur, ouais, sur Hollow Knight. Mais Dead Cell était comment dirais-je, il est beaucoup plus stressant, plus nerveux. Voilà, c'est ça. Il est beaucoup plus nerveux que celui que j'ai pris moi. Et, mais il fait très envie. Et c'est devenu déjà un classique. Quoi.
Donc, voilà, ouais, il est vraiment très très bien, et voilà, moi je suis vraiment pas de la génération des jeux d'aujourd'hui, pour tout vous dire, voilà, j'ai beaucoup joué jusqu'à mes 18-20 ans, même avant, mais j'ai toute la génération des nouvelles consoles, là en fait, moi je m'étais arrêté à la fin de la PS1, un peu de PS2, mais j'ai jamais connu la PS3, la PS4, tous ces trucs-là, j'ai récemment acheté une Switch parce que je me déplace beaucoup et pour occuper un peu le temps. Et je trouvais que c'était un bon compromis pour tout ça.
Bon choix.
Mais voilà, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a ce côté, voilà, on peut vraiment jouer un peu de partout et quand même avoir le côté console de salon aussi. Même si les performances sont pas celles d'ordinateur ou de console de salon. Mais en tout cas, moi, ça me convient très bien. Mais voilà, je m'aperçois que ce que j'aime, c'est quand même un peu les jeux qui ont bercé mon enfance. Le premier truc que je fais sur une console, c'est de mettre un émulateur en général parce que voilà. Le fait de jouer rapidement, quoi. C'est vrai que les jeux qui sont beaux, hein, je reconnais le Zelda sur Switch, il est magnifique, mais je n'ai plus le temps aujourd'hui à mon âge de consacrer autant de temps pour ces jeux, tout simplement. Voilà.
Mais ça, le temps disponible, c'est notre limite.
C'est notre limite, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on a fini sur cette note. Si vous voulez nous retrouver, vous savez comment faire sur Twitter, sur iTunes, avec des petits commentaires, si vous pouvez, sur le site e-teachers.fr. Plus particulièrement, Seb, comment on te contacte ?
Ah ben moi, vous me retrouvez sur Twitter avec mon pseudo @stuteur, S-T-U-T-E-U-R, ou alors vous allez retrouver Guillaume au même endroit avec...
Willow, W-I-2-L-O, le tiret du 8 underscore, donc, et Teach, T-E-A-C-H. Voilà. En tout cas, on était content de passer ce podcast avec vous. On essaiera d'être plus régulier pour les prochains. Et la prochaine fois, nous aurons retour de Jeff et on se fera une émission tous les trois. Voilà.
Voilà, exactement. Et oui, vous n'oubliez pas, on a aussi notre petit Tipeee de côté. Donc, pour un petit soutien, pour un café ou ce genre de choses, vous pouvez y passer.
Complètement. Salut, merci à tous. Bonne soirée.
Bonne soirée.